Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette possibilité que nous avons encore de nous réunir librement chez nous pour glorifier ton nom, étudier ta parole. Merci Jésus de nous éclairer et de nous faire comprendre dans quel temps nous vivons et ce que nous avons à changer afin que nous puissions te glorifier davantage et en acceptant la vérité. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Alors, on va faire pas mal de lectures ce soir. On va commencer par l'évangile de Jean, au chapitre 3. Vous connaissez tous ce verset. Et le verset 8. 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, de toute femme aussi, évidemment. Alors, je vous avais prêché sur ce texte il y a quelque temps, mais je veux y revenir. Mes frères et sœurs, si un véritable enfant de Dieu est ainsi, la véritable Église de Jésus-Christ, qui est composée des véritables enfants de Dieu, est comme cela aussi. C'est-à-dire que la véritable Église de Jésus-Christ, elle va là où elle veut, avec le vent du Saint-Esprit. D'accord ? La véritable Église de Jésus-Christ est donc libre. Maintenant, dimanche, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est la liberté. Mais on va développer cela. Mais pour le moment, simplement pour dire que personne ne peut l'encadrer. Ça ne veut pas dire personne ne peut l'aimer. Parce que maintenant, le mot encadrer, c'est « je ne peux pas t'encadrer », ça veut dire « je ne peux pas t'aimer ». Il faut reprendre les mots tels qu'ils dans leur véritable signification. On ne peut pas... Personne ne peut encadrer l'Église. Personne ne peut l'institutionnaliser. C'est ce que nous avons voulu dès le commencement avec Michou, en 1977, quand nous avons créé la communauté, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Alors évidemment, je pense que quand on est 4000 membres, comme au temps des apôtres, il faut un minimum d'organisation, donc... des gens qui sont chargés de ceci, des gens qui sont chargés de cela, et par exemple les apôtres s'occupaient de la comptabilité, ils servaient aux tables, hein. Ça veut dire qu'ils s'occupaient de la comptabilité. C'était trop pour eux dans le sens que ils n'avaient plus le temps de s'occuper des affaires de spirituelles, donc ils ont remis cette tâche à quelques hommes remplis du Saint-Esprit, et puis ensuite ils ont dû nommer aussi des responsables parce qu'ils étaient nombreux et que parfois... Quand on est nombreux, les problèmes se multiplient, donc il faut les résoudre, donc il fallait des responsables. Alors il y avait des gens plus sensés que d'autres, plus à même d'écouter, de comprendre, enfin des gens qui avaient de l'esprit de Dieu. Donc on a nommé des anciens et tout. Mais quand on est 20 pelés, quand on est une trentaine de tondus, je crois qu'on n'a pas besoin d'institutionnaliser l'Église de cette manière-là, et on peut très bien parler en tant qu'adulte, et puis résoudre les problèmes, et on l'a toujours fait, ça fait maintenant, depuis 77, on a toujours fait comme ça. La véritable Église, donc, on peut la reconnaître, comment ? Par son influence. Par son influence. La véritable Église de Jésus-Christ se caractérise par les influences qu'elle exerce dans la séparation d'avec son contraire. C'était pas comme ça au départ. Ils se sont séparés de la religion de la loi. Mais maintenant, nous avons un passé, l'Église a un passé plus ou moins et terriblement tumultueux, et la véritable Église est obligée de se séparer de ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc, la véritable Église de Jésus-Christ se caractérise par les influences qu'elle exerce, et surtout dans la séparation d'avec ce qui est son contraire. Le contraire de la véritable Église, c'est ces sociétés, cette société qui veut structurer, n'est-ce pas, institutionnaliser pour pouvoir contrôler. Le but dans l'Église primitive, c'était pas le contrôle. Le but, c'était d'aider, que chacun soit aidé, que chacun puisse être, n'est-ce pas, béni et à l'aise. Alors que maintenant, c'est plutôt, on voit dans les églises, c'est pas seulement l'église catholique, hein, c'est partout, on voit qu'il y a un groupe d'hommes et de femmes qui veulent contrôler. Je parlais de cela, je ne sais plus avec qui cet après-midi, moi j'ai vu ça directement en rentrant Dans l'église, quand je me suis converti, il y avait les sœurs qui étaient là. On les appelait les sœurs Baumann. Je pense qu'il y en a encore qui vivent. Les pasteurs, ils tenaient, ceux qui ont tenu le plus longtemps, ils ont tenu un an, hein, parce que elles étaient terribles. Elles arrivaient à mettre la pagaille et alors on envoyait un autre pasteur, etc. etc. Et il y a beaucoup d'églises où c'est comme ça. Des gens qui veulent contrôler. Et quand on lit Romains 1, 18, nous voyons que la colère de Dieu se révèle pleinement du ciel sur toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors on dit, mais ça, qu'est-ce que ça a à voir? Ben, c'est-à-dire que ceux qui prétendent détenir le monopole de la vérité, ceux-là, ils retiennent la vérité injustement captive, parce que personne ne détient le monopole de la vérité. Personne ne peut dire, voilà, ma religion, c'est la meilleure. Je vous ai toujours dit ça, je vous ai dit, notre façon de vivre la foi, c'est pas la meilleure. C'est pourquoi on cherche à l'améliorer, à faire mieux. Et en cherchant dans les Écritures, on trouve, n'est-ce pas, comment faire mieux. Celui qui dit qu'il détient le monopole de la vérité, tel groupe, fait vraiment le jeu du malin et non celui de l'esprit. Parce que qui est souverain? C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui est souverain. C'est lui qui conduit les siens. Et les siens, ce ne sont pas ceux qui l'ont choisi comme sauveur et maître. Déjà là, il y a une erreur. Moi, quand je me suis converti, c'est ce que le prédicateur disait. Après nous avoir fait bien pleurer au sujet des souffrances atroces de Jésus sur la croix, on nous a dit maintenant, qui veut accepter Jésus comme son sauveur? Levez votre main, je prierai pour vous. Et on était. Moi, je suis né de nouveau là, c'est vrai. On peut pas dire qu'il n'y a pas des véritables chrétiens. Des gens qui deviennent véritablement chrétiens dans ces. Mais ce n'est pas juste, parce que la réalité, personne ne choisit Dieu comme son sauveur et maître. C'est Dieu qui, dans sa souveraineté, choisit les siens. Donc, notre façon de prêcher doit être différente de cette façon-là qu'ont les dénominationnels qui ne sont pas entrés dans le rétablissement et qui prêchent l'évangile d'une façon qui n'est pas tout à fait correcte. Jean 15, 16 nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ou pire encore, accepté comme sauveur et maître, parce que accepter le Seigneur, c'est dire oui, bon, j'accepte. Ça m'a toujours fait frémir, hein, cette phrase-là, je vous l'ai souvent dit. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Dans Actes 9, 15, il dit, les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils avaient à l'époque peur de Saul de Tarse qui. On racontait, voilà, Saul de Tarse, le persécuteur, s'est converti, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Et puis, Dieu en parle avec un homme qui s'appelle Ananias, c'est pas le même Ananias qui est mort avant, hein, c'est pas possible. C'est un autre Ananias, comme les Dupont, il y en avait plein, des Ananias. Et le Seigneur dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Et dans 1 Corinthiens 1, 27, il est dit, Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages, Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes, Dieu choisit les choses viles de ce monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Personne ne pourra se glorifier devant Dieu. C'est Dieu qui choisit. Et il choisit les plus faibles, les plus simples, les plus. Voilà. Jacques 2,5 nous dit, écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Donc c'est Dieu qui choisit, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est clair. Autrement dit, dans les dénominations, ils prêchent la souveraineté de l'homme dans le salut, puisqu'ils disent choisissez. Vous comprenez? Alors que c'est Dieu qui est souverain en tout et surtout en ce qui concerne le salut. Bon, déjà là au départ. Ce n'est pas l'homme qui prédestine Dieu à devenir son sauveur, c'est Dieu qui a prédestiné l'homme et la femme. Prétendre que les décisions de l'homme, décisions volontaires, contribuent au salut de l'homme, c'est une hérésie. C'est une hérésie. On ne reçoit pas Jésus dans notre cœur par notre volonté, par notre choix. On est élu dès avant la fondation du monde et on ne naît de nouveau que par la volonté de Dieu et non pas par notre volonté personnelle. Ça, c'est Jésus, c'est Jean qui le dit, c'est dans 1 Jean 12, 13. C'est clair, c'est Dieu qui fait naître de nouveau, c'est lui qui choisit, c'est lui. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. On va me dire, mais il faut prêcher comment alors? À quoi ça sert de prêcher ici? On va y venir. Dans les églises, et j'avoue, je l'ai fait aussi, on insiste sur le fait qu'il faut lire la Bible, par exemple. Il faut lire votre Bible, il faut... Alors quoi, Michel, tu vas nous dire qu'il ne faut plus lire la Bible? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. La Bible dit que c'est Dieu qui met en ses enfants le vouloir et le faire. Philippiens 2, 13. Et que nous ne pouvons rien faire sans Christ, parce que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu, il aime étudier les Saintes Écritures parce que ça lui est donné par Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes ses élus, nous sommes ses enfants, nous avons été programmés comme ça et nous sommes comme ça. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on prend la Sainte Cène qu'on a la vie éternelle, mais c'est parce qu'on a la vie éternelle qu'on prend la Sainte Cène. On peut le comprendre à l'envers, mais on peut le comprendre aussi à l'endroit. C'est une réaction normale chez un véritable enfant de Dieu d'étudier la Bible. Il n'y a pas d'effort à faire pour faire cela. Le véritable enfant de Dieu, il est irrésistiblement attiré par le Saint-Esprit qui vit en lui à lire les Saintes Écritures. Le véritable enfant de Dieu a tellement d'amour réel pour son divin Sauveur qu'il se penche sur les textes sacrés pour être instruit par le Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui a dicté ce livre. C'est une question de nature, on est attiré. Vous ne serez pas perdu si vous faites ceci ou si vous faites cela, vous ne serez pas perdu si vous ne faites pas ceci ou si vous ne faites pas cela. Tous les élus de Dieu seront sauvés. Et les seuls qui iront en enfer, ce sont les fils du malin. Dieu ne perdra aucun des siens, aucun de ses enfants, aucun. C'est les fils du malin qui seront perdus. Il faut réfléchir. Alors maintenant, est-ce que Dieu a mis tous ses enfants du côté du bassin méditerranéen et surtout en Europe, puis en Amérique, et puis maintenant un petit peu il y en a en Chine qui naissent et puis il les sauve? Non, il y a toujours eu des enfants de Dieu partout sur la terre, et ceux qui n'ont pas le privilège d'entendre prêcher sur la terre, ils entendent prêcher dans le séjour des morts. 1 Pierre 4, 6. Et aucun enfant de Dieu ne sera perdu. Non. Tous les enfants de Dieu seront sauvés. Dans le séjour des morts, ceux qui entendront la parole de Dieu et qui ne sont pas enfants de Dieu le refuseront. Là, même dans le séjour des morts, ils le refuseront parce que c'est contre leur nature. Ils sont fils du diable. Rappelez-vous la parabole, hein? Il y a deux semeurs qui sont sortis, un avec une bonne semence, l'autre avec une mauvaise semence. Le bon semeur, c'est Dieu. Le mauvais semeur, c'est le diable. La bonne semence, ce sont les fils du royaume de Dieu, les fils de Dieu. Et la mauvaise semence, c'est les fils du malin. Voilà. Bon. Eh bien, tout cela, les fils du malin seront perdus, mais pas les autres. Non. Dieu ne perdra aucun des siens. Alors, nous ne sommes pas fatalistes, comme le sont les réprouvés. Pour un véritable enfant de Dieu, élu dès avant la fondation du monde, il y a une chose certaine, c'est que Dieu contrôle tout, et c'est avec reconnaissance qu'il s'abaisse et qu'il se soumet à la direction de son souverain, c'est-à-dire de Dieu, dans toutes les circonstances de la vie. Véritable enfant de Dieu, élu dès avant la fondation du monde, a pleinement conscience que le Seigneur a un plan spécifique pour lui dans tout ce qui lui arrive. C'est comme ça. C'est la foi. Et cela le pousse davantage à prier. Alors, ça a l'air d'être bizarre, parce que, bon, alors pourquoi est-ce qu'on va prier, puisque il n'y a rien qui va changer, tout est prédestiné, tout est décidé, alors à quoi ça sert de prier? Eh bien, pourquoi on prie? Mais pour que Dieu nous accorde la révélation de sa volonté, la compréhension, la sagesse et le courage de se soumettre à sa volonté. Voilà pourquoi on prie. On ne prie pas pour faire changer le plan de Dieu. On prie pour que notre Père soit glorifié devant les hommes. Jésus a dit, ce n'est pas à cause des... C'est à cause d'eux que je prie. Hein. Quand il était devant la tombe avec Lazare, c'est à cause d'eux, pour qu'ils voient. Et nous aussi, quand on fait tout ça, c'est pour que les gens voient qu'on est en communion avec Dieu et qu'il exauce. Mais il exauce quoi? Il n'exauce que les prières qu'il nous a inspirées. Il n'exauce pas les autres. Pourquoi? Parce qu'elles sont charnelles. Voire peut-être même des fois diaboliques pour certains. Alors on va lire Hébreux 5, 9. Alors, Hébreux 5, 9. Qu'est-ce que nous dit Hébreux 5, 9? Hébreux 5, 9 nous dit... on peut déjà lire 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alors on dit, oh, voilà, tu vois, c'est ceux qui obéissent, n'est-ce pas? Il est l'auteur du salut de ceux qui obéissent. Et ce verset a été terriblement mal compris et a donné toutes les hérésies des légalistes que nous connaissons, et on en a fréquenté pas mal. On les a laissés tomber parce que c'est insupportable. Mais il faut comprendre que depuis Jésus, nous sommes soumis à l'obéissance de la foi et non à l'obéissance de la loi. L'obéissance de la loi, ça implique des œuvres, des choix, des efforts à faire pour plaire à Dieu. Par contre, l'obéissance de la foi, elle implique la soumission, c'est-à-dire l'abandon de soi-même dans la reconnaissance de nos incapacités, dans la reconnaissance de nos faiblesses. On reconnaît qu'on n'est pas capable. Alors on se soumet, on obéit par la foi. On dit, mon Seigneur, moi je ne peux pas, sans toi je ne peux pas, je n'y arrive pas. Et on se soumet avec joie. L'abandon de soi-même à notre souverain sauveur. Voilà ce que c'est l'obéissance de la foi et non pas l'obéissance de la loi ou toute autre chose. Alors l'abandon dans une confiance totale en Jésus qui obéit, qui lui a obéi et a accompli toute la loi, c'est ça, cette obéissance dont il parle là. C'est-à-dire qu'on obéit dans la foi. Obéir, dans le mot obéir, il y a l'idée d'être le sujet d'un souverain, d'être assujetti, de s'abaisser, d'être soumis à la volonté d'un souverain. Dans le concept moderne, l'obéissance, ça implique, c'est presque une humiliation. Hein, mais dans le concept ancien, l'obéissance implique simplement l'abandon de tout effort et l'abandon de toute revendication, simplement que ta volonté soit faite. L'abandon de tout effort dans la confiance, dans la foi que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28 ou 27, je ne sais plus. C'est ça l'obéissance de la foi. C'est ce, comme diraient les gens du monde, le lâcher prise. On fait confiance à Dieu, on sait que Seigneur, tu fais tout pour le mieux, etc. Quel effort devrions-nous faire pour contribuer à notre salut? Aucun. On n'a aucun effort. Ce n'est pas parce qu'on vit en communauté qu'on sera plus sauvé, non, 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 non. Mais on a compris qu'il fallait le faire, alors on le fait, mais ce n'est pas un effort, c'est une joie d'avoir été choisi pour reconnaître une telle vérité et le faire, c'est magnifique. Mais ça ne contribue pas à notre salut, ce n'est pas ça qui nous sauve. Ou quelle œuvre devrions-nous faire pour plaire à Dieu? Prendre la Sainte-Seine, se laver les pieds, quoi encore? Mais on plaît à Dieu parce qu'on est ses enfants. Moi, je suis désolé. Mes enfants, mes petits-enfants, tous ceux que j'aime, ils me plaisent parce que c'est normal. C'est normal. C'est comme ça. Cette question, elle a été posée à Jésus. Hein, qu'est-ce qu'on doit faire pour plaire à Dieu pour... Et la réponse de Jésus, elle est claire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour plaire à Dieu? Il dit, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ici l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la vôtre. C'est ici l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, c'est ici ce que Dieu fait que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jean 6, 28, 29. Mais réfléchissez bien à ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, pour plaire à Dieu? Rien, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est-à-dire, c'est lui qui fait que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est son œuvre, c'est pas vous. C'est même, vous croyez en lui, c'est même pas vous qui. Non, non. C'est l'inverse. Tout est inversé. Il faut rétablir la vérité. Ça veut dire qu'il faudra prêcher autrement. Voilà donc la seule et véritable responsabilité du chrétien, la soumission de la foi en notre souverain Seigneur Jésus-Christ. Parce que si on croit en lui, on se soumet naturellement à lui. Si vous ne croyez pas cela, vous êtes de ceux. On va lire le texte. Galates 5, 3, au sujet de l'inutilité de Christ. C'est bien ce qu'il dit, 5, 3. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Michel Janson s'est trompé, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Et c'est pas. Et alors c'est comme. Vous voyez, on est meilleur parce qu'on nous on a. Non, vous n'êtes pas justifié parce que vous faites mieux que moi ou vous n'êtes pas mauvais parce que vous faites moins bien que moi. Non, ça n'a rien à voir. Et si vous pensez que c'est par les choses que vous faites, eh bien, vous êtes séparés de Christ. Christ est inutile pour vous. C'est terrible ce qu'il dit là. Vous êtes séparés de Christ. Christ est inutile pour vous. Pour qui? Pour vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. C'est-à-dire, dans les il faut faire ci, il faut faire ça. Nous avons trouvé le meilleur, le véritable lavage des pieds. Ah bon? C'est bien, tant mieux, gloire à Dieu. Il faut nous le dire afin qu'on sache aussi, nous, pour qu'on participe à cette joie. Mais non, ils ne nous disent pas, ils gardent ça pour eux, ça glorifie la chair, n'est-ce pas? C'est tellement merveilleux. Je vous dis souvent, hein, avec Paul, que la foi sans les œuvres est morte. Et c'est parfaitement vrai. Mais les réprouvés voient la foi accompagnée d'œuvres librement choisies. Et c'est là l'erreur. C'est une hérésie. La foi accompagné d'œuvres librement choisies. La foi s'accompagne naturellement d'œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions avec le vouloir et le pouvoir de faire ce qu'il nous donne. Nous ne choisissons rien. On est ici une représentation de la gloire, de la sagesse infiniment variée de Dieu devant tout le monde ennemi. Voilà ce que nous sommes. Si je suis libre de choisir, de faire ou de ne pas faire, je suis égal à Dieu. Qui est égal à Dieu? Personne. Personne. Mais il y a un esprit. C'est l'esprit de l'Antichrist, et l'apôtre dit, il est déjà parmi nous, il est déjà là. Il y a un esprit Antichrist qui cherche à s'asseoir dans le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire en vous, pour se proclamer Dieu, pour se proclamer l'égal de Dieu, pour vous faire croire que vous pouvez choisir, pour vous faire croire même que vous devez choisir. Alors il essaye, cet esprit d'Antichrist, de s'asseoir dans les chrétiens, et il peut s'asseoir dans certains chrétiens, mais il ne pourra jamais s'asseoir dans les élus. peut s'asseoir dans les appelés, mais il ne peut pas s'asseoir dans les élus. Est-ce que vous comprenez ce que Paul dit au sujet du temps où l'Antichrist viendra s'asseoir dans le temple? Il dit que l'homme du péché, c'est-à-dire l'homme de Caïn, Jésus était le fils de l'homme, c'est-à-dire fils d'Adam, le premier homme. Maintenant, il y a eu d'autres. Il y a eu Caïn, qui est le fils du diable, qui a eu toute une lignée, lui aussi. Eh bien, l'homme du péché, c'est-à-dire l'homme de Caïn, le fils de la perdition, à l'image du traître Judas, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Vous trouvez ça dans 2 Thessaloniciens 2, 4, c'est quelque chose qui va arriver. L'esprit de Caïn venant s'asseoir dans le temple. Ça va arriver dans la réalité, mais il y a le prémisse de ça. Le prémisse de ça, c'est quand cet esprit-là vient dans quelqu'un qui est croyant, qui est religieux, et qui dit « ce que je dis, c'est Dieu qui le dit ». Et il n'y a pas une virgule qui doit changer. Alors que 1 Corinthiens 14, 29 nous dit exactement le contraire. Toute prophétie doit être jugée. Toute parole qu'un homme porte ou qu'une femme porte de la part de Dieu doit être jugée. Vous voyez comment c'est grossier, je dirais même. Mais pour quelqu'un qui connaît les Écritures, ça devient limpide et le discernement des esprits est là. Maintenant, une telle personne peut se repentir. Pierre a donné accès à cet esprit-là et Jésus a dit « Arrière de moi, Satan, tu mets en horreur. » Parce que Pierre disait « Non, c'est pas possible, ça ne va pas t'arriver. » C'était charnel, diabolique. Ce n'était pas selon la pensée de Dieu. Et Pierre s'est repenti et tout est redevenu dans l'ordre. Ce qui suffit, c'est simplement que ceux qui laissent cet esprit autoritaire qui n'est pas de Dieu, il suffit qu'ils se repentent et puis tout rentre dans l'ordre absolument. C'est ce que nous croyons et c'est ce que nous espérons de tout notre cœur. Qu'une telle personne se repente pour être délivrée. Alors, personne n'est libre d'accepter ou de rejeter Christ. Personne n'est libre de même rejeter Christ. C'est terrible. C'est une prétention, c'est un orgueil démesuré que de croire que quelqu'un est libre d'accepter ou de rejeter Jésus-Christ. Ceux qui croient ça refusent de croire que la foi est un don de Dieu. Et pourtant, c'est écrit dans Éphésiens 2, 8, mais clairement Éphésiens 2, 8. Je ne sais pas si je l'ai là, mais enfin, vous pouvez le chercher. Éphésiens 2, 8, que la foi est un don de Dieu. Un don de Dieu qui est donné à ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Et ça, c'est dans Actes, chapitre 13, verset 48. Il y en a qui sont destinés à la vie éternelle, et d'autres pas. Ça choque, n'est-ce pas, les sentiments. L'autre jour, nous avons eu quelqu'un qui est venu pour visiter le château, et puis ils m'ont demandé, « Ah, mais quelle profession faites-vous ?» quand ils ont vu mon bureau, j'ai dit, « Je suis pasteur. »« Ah bon, vous êtes plutôt luthérien, calviniste ?» Je dis, luthérien d'origine, mais plus calviniste dans la pensée au sujet, par exemple, de la prédestination. Elle me dit, oh là là, la prédestination, ça me fait peur. Je dis, oui, mais vous savez, Calvin n'a pas tout dit sur la prédestination. Il y a eu beaucoup de révélations depuis qui ont été données. Ça serait bien que vous puissiez les connaître. Il ne faut pas s'arrêter seulement à ce que Calvin a dit. Je n'ai pas voulu commencer à l'évangéliser à fond, mais ben, c'est des gens qui habitent pas très loin. Maintenant, cette vérité qui a été oubliée, qui a été méprisée, elle ne l'est plus, elle est désormais rétablie. Il faut que vous l'enseigniez. Il faut que vous l'enseigniez. La sagesse des autres n'est pas la sagesse d'en haut. Elle est terrestre, elle est sensuelle, c'est-à-dire elle est inspirée par les sens, c'est-à-dire, ah, si je commence à prêcher ça, ça va faire ci, ça va faire... Et je dirais même, elle est diabolique, Jacques 3, 15. Voilà le pourquoi de toutes ces horreurs dans les dénominations. J'ai appris dernièrement qu'un prophète qu'on a tous connu ici, il a abandonné sa femme, il l'a engrossée et il l'a abandonnée. Elle vit maintenant dans un cabanon au bord de l'océan. C'est incroyable. Sans un sou, sans rien du tout. Et lui, ben, il vit dans une superbe maison. Il a pris ses quatre autres enfants avec lui. Et puis, il fait des tournées d'évangélisation avec des miracles. Et il prophétise. Et il vient faire des tournées en France. Il vient faire des tournées en Suisse. Et les gens, ah, et ils donnent plein d'argent. Voilà. Ils ne savent pas ce que. Et des abominations comme ça, il y en a plein, 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 plein. Parce que ils n'ont pas l'amour de la vérité. Alors, un jour, ils ont demandé un don, et Dieu leur a fait un don, et Dieu ne se repent pas de ces dons, ils ont encore le don. Mais voilà. C'est ce que Jésus dit quand il dit, ce sont des faux oints. C'est pas l'onction qui est fausse, c'est eux. Ils sont faux. L'onction est vraie, mais eux, ils sont faux. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Mais nous discernons. Et nous avons déjà discerné depuis quelques années, c'est pourquoi nous ne fréquentons plus ce triste sire. Je ne veux pas dire son nom, parce que ça ne sert à rien du tout. De toute façon, il y en a tellement maintenant, on pourrait passer notre temps à dire le nom de tous les faux prophètes. On n'en finirait pas. Mais pour vous, mes frères et sœurs, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul aux Philippiens, chapitre 1, verset 6. Pour vous, frères, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre, c'est lui qui a commencé, c'est pas vous, c'est lui. Eh bien, il l'amènera jusqu'à sa perfection. C'est lui qui le fera. Et au verset 29, il dit, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Philippiens 1, 29. Il souffrait de la part de faux chrétiens, et puis de juifs qui lui en voulaient, parce qu'avant Paul, ce cher Paul, il avait été pharisien, et puis les autres se sentaient trahis de le voir agir de cette manière-là, puis en plus d'avoir du succès, les gens n'aiment pas quand on a du succès. Hein. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas vous qui m'avez élu. Mais c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai élu. C'est pas vous qui avez élu Jésus-Christ, sauveur de votre vie. C'est pas vous qui l'avez élu être le maître de votre vie. C'est lui qui vous a choisi et qui vous a établi. Jean 15, 16. Alors, faut arrêter avec cet orgueil de dire j'ai choisi Jésus-Christ. Non, c'est faux. C'est une fausse doctrine. Faut arrêter de le croire et de le prêcher. Conduit les gens dans les ténèbres quand on fait ça. Quand on a compris ça, mais c'était bien il y a encore quelques années, parce que ça n'était pas révélé, ça n'était pas encore rétabli. Mais maintenant que c'est rétabli, il faut s'y tenir. D'accord? Quand on a compris ça, on est comme les premiers disciples, parce que les premiers disciples, ils ont dit alors, Seigneur, auprès de qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, Jean 6, 67. Ils se sont rendus compte, ils ont dit, mais vraiment? C'est vrai, c'est choquant, mais à qui irions-nous d'autre? Il y en avait plein qui étaient partis, mais eux, ils ont dit non, 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 on reste. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, on reste. Charles Spurgeon, vous connaissez? Eh bien, il croyait ces choses. C'est des choses qui venaient de Calvin. Et ce Charles Spurgeon, il a conduit des milliers d'âmes à Jésus. Pour les réprouver, l'évangélisation, c'est le moyen par excellence de remplir les bancs d'église et surtout les coffres de leur église. Pour nous, l'évangile de la souveraineté de Dieu ne s'impose pas à coup d'émotion. L'évangile de la souveraineté de Dieu est annoncé, il est proclamé. Nous proclamons. Je ne sais pas si Nicolas s'est rendu compte de ma façon différente de prêcher l'évangile maintenant quand je vais là-bas, mais je proclame la vérité et les gens sont touchés ou pas. Ils reconnaissent la voix du berger, ils le suivent, ils ne reconnaissent pas, ils ne suivent pas. Mais je ne leur dis pas, venez à Jésus, regardez comment son côté a été percé, regardez les marques dans ses mains. Et regardez-le souffrir sur cette croix, portant vos péchés. Venez à lui, acceptez-le. Non, non, je proclame la vérité. Jésus a donné sa vie sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, il est déjà jugé et il est déjà condamné. Maintenant, vous êtes face à la vérité. Je ne leur dis pas, choisissez. Mais je leur dis, venez à Jésus-Christ et confessez qu'il est votre sauveur. C'est très différent. Je vais vous dire une chose un peu choquante, vous avez l'habitude. Les œuvres des irrégénérés ne sont pas librement choisies par eux. Parce qu'ils sont esclaves de leur nature pécheresse. C'est vrai, c'est vrai. L'homme qui est né de nouveau n'est pas un robot de Dieu. Dieu n'a pas besoin de forcer les siens. Les siens, ils aiment la vérité, ils aiment la justice. Les siens, ils aiment faire le bien, ils aiment se détourner du mal. De par leur nature d'enfants de Dieu, comme les pécheurs, ils aiment le péché, les enfants de Dieu, ils aiment Dieu, ils aiment la sainteté, ils aiment la justice, ils aiment l'unité, ils aiment la beauté, ils aiment ce qui élève, ce qui glorifie le nom du Seigneur. Alors, que Dieu ait créé certains pour le salut et d'autres pour la perdition, ça ne fait pas de lui l'auteur du péché. Mais il faut reconnaître que... ce qu'il y a, c'est qu'il faut connaître Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, dit Jésus. C'est là la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Or, qu'est-ce qu'il nous dit de lui? On va lire dans Matthieu 5, 45. Matthieu 5, 45, qu'est-ce qu'il nous dit de lui? Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà comment est Dieu. Ça embrouille tout. Quand il dit qu'il fait pleuvoir, qu'il fait lever le soleil, tout ça, sur les justes et sur les injustes, ça veut dire, ceux qui pensent que c'est parce que tout va bien, ils sont bénis, et puis qu'ils sont que Dieu les approuve, c'est pas juste. Parce que ça, il le fait pour tous. Maintenant, il faut faire la différence. Qu'est-ce que c'est la différence? C'est de celui qui obéit par la foi, qui fait par la foi, qui fait la volonté de Dieu, qui prie pour ses ennemis, qui prie pour les diviseurs, qui prie, voilà, Seigneur, bon, si c'est ta volonté, éclaire-les. Cela dit, nous voyons mieux ce que signifie Apocalypse 13, 8, que nous dit Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Qui c'est qui va adorer l'Antichrist? Qui c'est qui va se révolter contre Dieu et qui va ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. C'est tout. Les enfants de Dieu ne vont pas tomber dans ce truc-là, c'est pas possible. Il fallait qu'il en soit ainsi. Afin que nous, ces enfants qui sommes sur terre, nous soyons à notre place et non pas sur un pied d'égalité avec notre Créateur, mais qu'il puisse nous racheter par sa grâce dans le but de manifester les richesses de sa gloire. On n'a rien à se glorifier, mais rien. Et ceux qui refusent de croire que Dieu a prédestiné à la condamnation certaines personnes s'opposent à ce qu'il dit clairement. Qu'est-ce qu'il dit clairement? Jérémie chapitre 43, verset 11. Est-ce que je l'ai là, Jérémie? Où est-ce qu'il est, Jérémie? 43. Jérémie 43, verset 11. Il viendra et il frappera le pays d'Égypte à la mort, ceux qui sont pour la mort, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée. Il nie Romains 9, 22, 23, qui dit, je le dis déjà avant, au 18, « Ainsi Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Tu me diras, mais alors pourquoi est-ce qu'il blâme encore? Parce que qui est-ce qui peut résister à sa volonté? Si Dieu veut que tu sois quelqu'un de mal, ben tu peux pas résister à sa volonté. Alors pourquoi est-ce qu'il nous blâme, Dieu? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu Pour contester avec Dieu, le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Qu'est-ce que vous allez dire si on vous apprend ça et on vous l'apprend? Dieu a formé des vases pour les détruire, pour montrer sa colère parce que et il l'a fait dans ce but-là. Hein, qu'est-ce que vous allez dire? Vous êtes choqués? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire? Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et ceux qui ne veulent pas croire que Dieu a prédestiné à la condamnation certaines personnes, ils sont bien obligés d'enlever ce verset-là aussi de la Bible. Et puis Jude 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'ils disent « Nous renions notre Maître », mais ils oublient qu'il est le Maître et que ce n'est pas eux les Maîtres. Que ce n'est pas eux qui ont choisi même ce qu'ils font. C'est fou, hein? Si ces choses rétablies vous intéressent, mes frères et sœurs, eh bien, je continuerai dimanche. On va en parler d'abord ensemble, entre dans l'équipe, dans la communauté, et puis j'en parlerai dimanche. J'aimerais aborder le sujet, au sujet de l'assurance du salut. Et je voudrais aussi parler de la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? Et je voudrais vous parler de la consolation que donne la doctrine rétablie de la prédestination. Si vous voulez, on en parlera dimanche, mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a déjà beaucoup à réfléchir. Et beaucoup de pensées que nous devons soumettre au Saint-Esprit afin de pouvoir le glorifier. Vous êtes d'accord? Il y a beaucoup à réfléchir. Nous sommes dans le rétablissement, pas simplement pour dire « Youpi, on a compris quelque chose de nouveau ». Non, on est là pour changer les façons de faire et d'être. C'est Dieu qui nous donne ce vouloir, c'est Dieu qui nous donne le faire. Il va nous donner toute autorité pour le faire. Merci Seigneur. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs qui ont écouté ce message ici, mais aussi tous ceux qui l'ont écouté sur le net. Merci Seigneur de permettre que ceux qui ont à se repentir se repentent et qu'ils reviennent dans la vérité, qu'ils se reconnaissent coupables d'avoir manqué d'attention, ne serait-ce que cela. Merci Seigneur Jésus. Sois béni mon Dieu. Permets que nous passions une bonne fin de soirée. Et que ce week-end soit bon, et que nous puissions te glorifier toujours pour de bonnes raisons, et aussi pour les choses difficiles de la vie qui peuvent nous arriver. Merci, mon Dieu. Amen. Amen.